La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. L'avantage de la sociologie et sa différence fondamentale avec d'autres modes de connaissance, en particulier le journalisme, c'est qu'en principe, elle n'a pas vocation à s'intéresser davantage au spectaculaire qu'à l'ordinaire, davantage aux marges qu'au centre, davantage à l'exception qu'à la règle, davantage aux déviants qu'aux conformes. En théorie, du moins. Car souvent, les sciences sociales cèdent aussi à l'attrait de l'inédit, du spécifique, oubliant peu à peu les récurrences les plus puissantes. Il en va ainsi du travail, par exemple. Depuis une bonne vingtaine d'années, les recherches se sont multipliées à propos de ces marges, s'intéressant à la précarité, au chômage, aux indépendants ou à ceux qui bénéficient de très très hautes rémunérations. Pourtant, 9 personnes en emploi sur 10 sont aujourd'hui salariées en France et l'écrasante majorité en contrat à durée indéterminée. C'est à cet emploi stable et classique que s'est intéressée depuis une vingtaine d'années Sophie Bernard pour mieux saisir combien, derrière ces apparences de stabilité, le salariat a été profondément modifié. Elle est aujourd'hui l'invitée de la suite dans les idées. Pour poursuivre sur le travail, toujours en seconde partie d'émission, c'est la réalisatrice Sophie Bruneau qui nous rejoindra. Elle est notamment l'auteur d'un film récent, Rêver sous le capitalisme, dans lequel 12 personnes ont raconté et interprété le souvenir d'un rêve de travail. Et on lui devait aussi ce film, Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, qui également traitait des conditions de travail, des expériences de travail. Sophie Bruneau nous rejoindra dans cette seconde partie. Bonjour Sophie Bernard.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine et chercheuse à l'IRISO et vous publiez aux presses universitaires de France le nouvel esprit du salariat. Alors le clin d'œil est évident au nouvel esprit du capitalisme, ce livre devenu célèbre, coécrit par F. Chiapello et Luc Boltanski. Vous avez choisi ce titre pour au fond vous inscrire dans cette tradition de recherche désormais qui essaye de comprendre ce qui se transforme dans le capitalisme, en l'occurrence dans le travail. Et vous l'avez fait, comme je le rappelais en introduction, en vous intéressant, à la différence de beaucoup de sociologues récents, en vous intéressant à ce qu'il y a de plus, en apparence en tout cas, banal, stable, classique, c'est-à-dire l'emploi salarié dont on sait, dont il a été montré depuis longtemps, qu'il a structuré véritablement l'époque contemporaine du salarié, mais dont on sait aussi qu'il est progressivement remis en question depuis, dites-vous, les années 1970. Alors on sait bien qu'il est remis en question parce qu'il est grignoté dans ses marges, parce que il y a de la précarité, il y a du chômage d'abord, peut-être pour commencer, qu'il y a des transformations, vous citez le livre d'Olivier Gauthier sur les trades par exemple, il était venu en parler il y a très longtemps ici, qui montre comment à l'intérieur du salariat des gens basculent vers autre chose. Mais en fait, ce qu'on connaît moins, ce que vous documentez à travers des enquêtes, 3 grandes enquêtes que vous reprenez là, c'est la façon dont l'emploi le plus ordinaire s'est trouvé lui aussi profondément transformé, et transformé notamment du fait de la manière nouvelle de rémunérer les gens, Sophie Bernard.
Tout à fait. La question des rémunérations est en effet centrale dans cet ouvrage. Alors, comme vous l'avez dit, cet ouvrage s'inscrit dans la continuité de celui de Luc Boltanski et F. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme. Ces auteurs rappellent tous les deux que l'accumulation capitaliste suppose l'engagement à la mobilisation d'une main-d'œuvre extrêmement importante, qui a priori n'a aucune raison de s'engager dans ce processus. Et de fait, cet engagement n'a jamais été aussi indispensable aujourd'hui dans des organisations contemporaines dites flexibles. J'y reviendrai plus tard. Mais ce qui apparaît aussi dans toutes les enquêtes de sociologie du travail, c'est que ni la contrainte, ni l'argent ne permettent d'expliquer cet engagement au travail. En réalité, ce qu'expliquent les auteurs donc du nouvel esprit du capitalisme, c'est qu'une idéologie est nécessaire pour justifier l'engagement dans le capitalisme. Et donc, donc le nouvel esprit du salariat, c'est une idéologie qui favorise l'avènement d'un travailleur autonome, responsable, et qui prône ce que j'appelle dans l'ouvrage une autonomie pour l'organisation. Alors, pour c'est quoi cette autonomie pour l'organisation ? C'est une autonomie qui n'est pas uniquement accordée aux salariés, mais qui est en fait exigée de leur part qui est mise en fait au service de la performance de l'entreprise.
Il y a une injonction à l'autonomie. Ça peut paraître un peu paradoxal.
Ça peut paraître paradoxal. Et puis, finalement, à l'autonomie, on associe toujours quelque chose de positif. A priori, tout le monde aspire à être autonome. Mais là, finalement, on est dans une logique aussi un peu paradoxale, puisqu'on est dans une logique aussi d'autonomie contrôlée, au sens où tous les indicateurs d'autonomie au travail, c'est montré dans les enquêtes emploi, s'accroissent. On dispose de davantage d'autonomie au travail, mais paradoxalement, ce que montrent aussi les enquêtes emploi, c'est que le contrôle s'accroît. Il change de forme, simplement. Ça passe par le biais d'indicateurs divers et variés, tout un tas de tableaux Excel qu'on doit compléter au quotidien. Et il se manifeste surtout au travers du management par objectif, par des objectifs donc que l'on doit atteindre et qui sont particulièrement évidents quand justement on s'intéresse aux questions de rémunération. Parce que la question aussi de l'ouvrage, c'est comment saisir ce nouvel esprit du salariat. Dans le nouvel esprit du capitalisme, ils prennent le parti de prendre pour objet la littérature managériale.
Oui, ils ont un corpus de textes, ouais, de management, et ils essayent de voir en quoi ça constitue une idéologie.
Tout à fait.
Et alors vous êtes allé chercher d'autres manifestations de cette idéologie, plus des leviers en quelque sorte, plus efficaces.
Tout à fait. Moi, du coup, je suis allée chercher du côté des rémunérations, sachant qu'en même temps, c'est une entrée qui n'est pas très étudiée, finalement, par la sociologie. C'est plutôt un objet qui relève de l'économie, ou voire de la gestion. Mais c'est vrai que la sociologie, quelques sociologues s'y sont intéressés. La référence classique, c'est Bernard Mottez.
Oui, ça remonte.
C'est en 66.
Voilà. Assez peu de travaux, après, sur cette question de la rémunération.
Les travaux de Jean Saglio, un petit peu, justement sur qui a adopté une perspective plutôt de relations sociologie des relations professionnelles, qui a un apport important, mais c'est vrai que c'est un objet qu'on a plutôt délaissé ou qu'on retrouve mais perdu au milieu d'autres thématiques qu'on va juger plus centrales. Et en fait, moi, j'ai voulu plutôt le prendre à bras le corps, en considérant que ça pouvait être une entrée justement pertinente pour appréhender ce nouvel esprit du salariat. Et justement, le point de départ de la recherche, il est intéressant de ce point de vue-là, c'est que à l'époque, je mène donc une enquête sur l'automatisation des caisses dans la grande distribution. Je m'intéresse à leurs impacts sur les conditions de travail des caissières.
Dans un hypermarché en particulier.
Tout à fait. Dans plusieurs hypermarchés implantés en région parisienne ou dans le sud de la France notamment. Donc je fais de l'observation, des entretiens, et c'est à l'occasion d'une observation et d'entretien informel avec une caissière que j'échange avec elle à propos de la question du contrôle des clients, parce que ça prend de plus en plus de place avec l'automatisation des caisses. Les clients peuvent passer tout un tas d'articles sans payer, donc c'est une question centrale. Et quand on aborde cette question, elle m'explique qu'elle y attache beaucoup d'importance parce que, eh bien, ce n'est pas seulement l'argent de l'entreprise, mais c'est, je la cite, « mon argent qu'on vole, je suis actionnaire, je suis propriétaire de l'entreprise ». Et c'est à partir en fait de cette remarque qu'est né ce projet, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, il se passe quelque chose du point de vue des rémunérations, à mettre en lien avec, de fait, l'engagement au travail. Et étant donné que c'est un sujet finalement peu étudié, j'ai lancé ce projet-là.
Comprendre cet enrôlement, au fond. Oui. Des salariés arriver à faire en sorte qu'ils voient les choses ainsi, c'était pas gagné d'avance. Ça passe par la mise en place de dispositifs qui conduisent les salariés à imaginer que, au lieu simplement de recevoir leur fiche de paye à la fin du mois, ils doivent, selon l'expression que vous utilisez, faire leur salaire.
Tout à fait. C'est que les managers, en fait, ont intégré dans tous les dispositifs de mobilisation de la main-d'œuvre dont ils disposent, tout ce qui est rémunération variable. Et donc, ils enjoignent les salariés à faire leur salaire. Et par là même, c'est finalement les responsabiliser, mettre en cause leur responsabilité individuelle. C'est à charge à eux de fabriquer, de faire leur salaire. Ça va se traduire donc par un mouvement de complexification, diversification des modes de rémunération qu'on constate au niveau national. On observe que 83% des salariés aujourd'hui ont des primes, bénéficient de primes.
Une part variable de leur rémunération.
Tout à fait. Et qui prend différentes formes. C'est-à-dire que c'est pas simplement je touche des primes sur objectif, c'est que je touche des primes sur objectif, une prime de participation, une prime d'intéressement, j'ai de l'actionnariat salarié, etc. Et donc chacun a une sorte de package de rémunération très hétéroclite et qui favorise par là même une forme d'individualisation des rémunérations.
Et on explique qu'en fait cette part variable est indexée sur la capacité pour le salarié à réaliser un certain nombre d'objectifs. Alors qu'en fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que ça tient souvent bien davantage à la conjoncture économique, par exemple.
Tout à fait, c'est que dans l'ouvrage, je m'intéresse à plusieurs cas, plusieurs secteurs. Je m'intéresse au secteur de la grande distribution. Je mène aussi une enquête dans le secteur bancaire et puis une autre enquête auprès de commerciaux. Et à chaque fois, sur des modes de rémunération spécifiques, le partage des bénéfices, les primes sur objectif et puis les commissions. Et ce qui ressort en effet de l'enquête, c'est que les managers donc tiennent ce discours selon lequel vous faites votre salaire, vous en êtes responsable et finalement votre salaire est à la mesure de votre engagement. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est que et ça peut être source justement de désenchantement, c'est que, par exemple, si on prend le cas de la première figure que j'appelle la figure du salarié associé dans le secteur de la grande distribution.
Oui, on va les reprendre parce que votre livre est structuré autour de ces trois cas qui fois s'appuie sur des enquêtes précises dans des secteurs différents. Alors le premier, c'est celui que vous dégagez après avoir observé le secteur de la grande distribution dans son ensemble, c'est-à-dire que vous vous intéressez aux caissières, vous en avez parlé, mais vous vous intéressez aussi aux cadres et aux différences entre les deux. Vous saisissez dans l'ensemble le secteur à travers un hypermarché en particulier.
Tout à fait. Alors j'ai étudié plusieurs hypermarchés et dans ce cadre-là, en effet, j'ai enquêter auprès des caissières, des employés de rayon, des chefs de rayon, des chefs de secteur, des directeurs de magasins. Toute la hiérarchie impliquée pour comprendre justement leur mode de rémunération et les perceptions qu'ils en ont. Et de fait, ce qui est ressorti de manière centrale, c'est le rôle important accordé au partage des bénéfices dans ce cadre-là. Donc intéressement, participation, actionnariat salarié, avec donc ce sentiment en fait que les salariés ont en fait pendant une trentaine d'années eu le sentiment de partager des intérêts communs avec leur employeur, ce qui les a responsabilisés. Donc durant une trentaine d'années, ils en ont tiré parti parce que finalement le secteur de la grande distribution allait bien. On était dans une période de croissance.
C'est là aussi que les plus grosses fortunes se sont faites.
Tout à fait. On a un gros écart entre la famille qui tient l'enseigne de la grande distribution étudiée et puis la caissière qui se trouve tout au bout de la chaîne. Mais ils ont eu le sentiment justement que les bénéfices avaient été partagés, ce qui a donné lieu à une forte émulation individuelle et collective, ce qui se traduisait même durant cette belle époque, comme ils le disent eux-mêmes, par une sorte d'effacement même des hiérarchies, où finalement on est tous dans le même bateau, cadre, employé,
culture corporate,
complètement, on est totalement dans cette logique, tout à fait. Sauf que dans les années 2000, on entre dans la crise, c'est une période de crise de la grande distribution, Et là, des magasins commencent à fermer, les chiffres commencent à chuter, surtout.
C'est le modèle en fait de l'hypermarché qui est un peu fragilisé par des changements pratiques.
Tout à fait. Et qui se répercute sur le chiffre d'affaires. Les salariés ont beau être engagés au travail, ils s'aperçoivent que finalement, ils n'ont pas vraiment la main dessus. Et que tout ce qu'on leur a raconté pendant une trentaine d'années, c'est plutôt un mythe. Et que leur engagement au travail ne permet pas de dépasser cette crise et que les résultats de l'entreprise ne sont pas forcément à la mesure de cet engagement.
Cette prise de conscience, elle intervient à peu près à quel moment et on en est où aujourd'hui ?
Alors, elle intervient dans les années 2000, au moment où ça commence à chuter. Je suis pas retournée sur le terrain depuis, mais de fait, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu vraiment des plans sociaux, ce qui est une nouveauté dans la grande distribution. Donc, on peut imaginer à ce moment-là de grandes désillusions.
Et un recours à davantage d'emplois précaires, probablement, la proportion des...
Alors après, en fait, dans la grande distribution, ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils font essentiellement appel à des CDI, ce qui est plutôt vrai.
Mais en temps partiel.
À temps partiel, par contre, tout particulièrement en caisse. Pour le coup. Et de fait, les femmes à temps partiel vont être plus particulièrement pénalisées parce que les primes sont à la mesure aussi, évidemment, de leur temps de travail. Donc, elles y tiennent d'autant plus à ces compléments de salaire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que ce qu'expliquent les organisations syndicales, c'est que durant cette trentaine d'années, les organisations syndicales se trouvaient quasiment en incapacité de négocier des augmentations de salaire. Parce que ces primes relevant du partage des bénéfices, en fait, étaient extrêmement importantes. Ça pouvait correspondre, les bonnes années, à 6 mois de salaire supplémentaire, ce qui est quand même conséquent. Et donc, finalement, il n'y avait pas de revendication autour de l'augmentation du salaire fixe. Les salariés découvrent, en fait, la faiblesse de leur rémunération. Donc,
ils la découvrent parce qu'elle était tellement individualisée qu'ils n'avaient plus forcément non plus de point de comparaison ni d'organisation pour défendre le niveau général des rémunérations en quelque sorte.
Tout à fait, et puis ils concevaient leur rémunération, et puis il y avait aussi une rhétorique managériale qui allait dans ce sens, comme un package qui englobait à la fois le fixe et le variable, avec cette certitude que ce variable n'en était pas un et serait toujours présent. C'est une grosse déception, en particulier pour les plus anciens qui ont connu cette période, avec donc ces salariés qui se voient comme des propriétaires de leur entreprise, qui insistent sur le fait qu'ils sont devenus aussi propriétaires de leur logement grâce à l'actionnariat salarié. Donc eux sont particulièrement déçus. Ils ont l'impression d'avoir été trahis. Et après, on a une nouvelle population. Je parle de nouveaux prolétaires, un terme que j'emprunte à Sarah Abdelnour, pour caractériser ces populations qui travaillent dans les services et qui sont en fait dans des situations extrêmement précaires et qui en fait peinent à survivre avec leur salaire de base.
Alors le deuxième secteur auquel vous vous êtes intéressé, Sophie Bernard, est assez différent, c'est celui de la banque. Alors pas toute la banque, vous avez laissé de côté la banque d'affaires, la banque de marché qui obéit à des logiques de rémunération très très différentes, qui se rapprocherait sans doute davantage de ces traders dont je parlais tout à l'heure, étudiés par Olivier Gauthier. Vous avez travaillé sur la banque, celle qu'on rencontre encore, même si elle est de plus en plus en ligne. En fait, j'imagine que ça intervient aussi dans ces changements que vous avez observés, Sophie Bernard.
Alors, en effet, je me suis intéressée à des agences et à tous ceux qui travaillent en back-office. Ça va du conseiller particulier, conseiller clientèle, au conseiller patrimoine, etc. J'ai mis le focus plutôt sur les primes sur objectif dont on me parlait énormément durant les entretiens. Donc, qui vont prendre différentes formes en fonction des statuts, si on est cadre ou employé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de prime abord toujours un attachement et une adhésion à cet idéal méritocratique dont seraient emblématiques ces primes sur objectif. Je serais rémunérée en fonction de mon mérite individuel, de mes efforts. Donc, dans l'idéal, tout le monde est en faveur de ces primes et critique fortement tout ce qui est prime à l'ancienneté, notamment salaire à l'ancienneté, pardon. En pratique, par contre, c'est un petit peu différent parce que toute la question qui se pose, mais classique, même en sociologie de l'éducation, hein, pour le coup, c'est qu'est-ce que le mérite? Quels sont les critères pour le mesurer? Et c'est là où ça commence à coincer parce que là, on est justement dans une entreprise aussi en restructuration. Ce qu'on voit, c'est que, par exemple, du côté des employés, on change régulièrement les modalités de calcul des primes, ce qui est le cas de manière assez générale, changer tout le temps ces manières de compter. Donc, on a intégré un critère qui est celui des relations clients pour valoriser cette dimension, justement, et qui se traduit par une chute, en fait, du montant des primes. Et les salariés expliquent, ont en tout cas le sentiment que finalement, c'est pas tant une question de critères, c'est pas tant qu'ils ne sont pas bons sur cette dimension-là, mais qu'en fait, l'entreprise veut faire des économies, et que c'est un moyen de le faire que d'aller sur ce terrain-là. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est du côté de l'évaluation des cadres, c'est que les cadres sont dans une posture ambivalente, parce qu'ils sont à la fois celles et ceux qui évaluent et ce qui sont évalués. Et en fait, en fonction de leur trajectoire socio-professionnelle, eh bien, ils ne vont pas agir de la même manière et notamment vont parfois essayer de réparer les injustices, comme ils le disent eux-mêmes. L'exemple classique, c'est un cadre qui a été peu diplômé, en tout cas moins diplômé, donc qui a été recruté à un salaire plus faible que qu'un jeune bac plus 5 qui arrive et qui sait qu'il ne pourra jamais rattraper en fait cet écart de salaire. Et une fois que lui est dans cette position de distribuer les primes, il va faire en sorte, il va réserver un traitement spécifique aux peu diplômés comme lui pour essayer de réparer les injustices en compensant leur salaire par des primes plus élevées. Et après, dans ce processus, ce qu'on voit ici, c'est que ce sont les femmes qui sont particulièrement pénalisées.
Oui, ça, c'est on y reviendra parce que je voudrais qu'on termine par ce sujet que vous abordez aussi à la fin du livre. Mais avant ça, peut-être si on va avoir le temps de parler du troisième secteur que vous avez enquêté, c'est assez différent. Il est plus hétéroclite. C'est ces gens qu'on appelle les commerciaux. Alors c'est ceux que, sans rien connaître à tout ça, on associe plus immédiatement avec ces nouveaux modes de rémunération, ces primes, etc. Puisqu'il y a une dimension de commerce au fond dans ces métiers qui sont des métiers de salariés néanmoins, qui est très forte et qui est très compréhensible, je dirais, y compris peut-être même par le consommateur qui a affaire à ces commerciaux, Sophie Bernard.
Alors tout à fait, les commerciaux, c'est un peu justement un cas limite, parce qu'ils sont à la frontière, on pourrait dire, avec le travail indépendant. Au sens où, de fait, ils sont payés à la commission, en tout cas une grande partie de leur salaire relève de commission, donc d'un pourcentage sur les chiffres. Et ces commerciaux, donc, en tout cas, ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait qu'ils bénéficient d'une très forte autonomie au travail, mais au prix d'une très forte incertitude. J'ai un exemple en tête, c'est un commercial qui m'explique que finalement, cette incertitude, c'est le prix de ma liberté, comme il le dit lui-même. Il refuse d'avoir un salaire fixe, considérant que c'est le moyen pour lui de ne pas avoir de compte à rendre parce que justement, il fait son salaire. En fait, ces commerciaux rencontrent de plus en plus de difficultés, de fait, avec le développement d'Internet, qui est un concurrent direct, et puis par ailleurs, qui sont confrontés aux difficultés économiques de leurs clients, qui rejaillissent sur leur propre activité, puisque ils vont avoir plus de mal à placer des produits. De fait, on va avoir de très fortes inégalités qui vont émerger à cette occasion.
Alors vous le disiez, ces inégalités, elles sont variables, elles aussi, il n'y a pas que les primes qui le sont, elles sont variables en fonction de la position occupée dans la hiérarchie de l'entreprise, selon que vous êtes employé ou cadre, c'est pas pareil. Et puis elles sont variables selon le genre aussi, parce que les femmes sont les premières pénalisées par ces transformations du salariat. Ça, vous insistez beaucoup sur cette question, Sophie Bernard.
Oui, tout à fait. C'est que ce sur quoi j'insiste, c'est à la fois sur des résultats spécifiques à chacun de ces terrains d'enquête et en même temps certains résultats transversaux. Et la question des inégalités salariales hommes-femmes est en effet récurrente sur les trois terrains. Ce qui apparaît, c'est que finalement, ce qui a déjà été démontré par ailleurs, c'est que tout ce qui relève de procédures de distribution des primes plus informelles ou qui relève de la responsabilité du management directement, tend à pénaliser les femmes pour différentes raisons. Alors, de fait, parce que ce qui apparaît, c'est que les femmes sont souvent oubliées au moment de la distribution des primes parce qu'elles sont moins enclines que leurs collègues masculins, notamment, à aller voir leur hiérarchie pour négocier leurs primes, et beaucoup moins. Et par ailleurs, il y a toujours un soupçon de moindre disponibilité, moindre engagement au travail, un soupçon de maternité, qu'on ait ou qu'on n'ait pas d'enfants d'ailleurs, qui va donc les pénaliser. Donc elles doivent sans cesse refaire leurs preuves en permanence. Et elles ont intériorisé cette logique, pour le coup. Et ce qui est paradoxal, par exemple, dans le cas sur secteur bancaire, sur l'entreprise bancaire, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que, justement, les femmes managers veuillent réparer les injustices qu'elles-mêmes ont vécues donc pour d'autres femmes. En fait, elles ne le font pas, parce qu'elles ont intériorisé cette logique méritocratique et considèrent que, en effet, eh bien, si j'ai été absente pour un congé maternité, eh bien, je dois refaire mes preuves parce que je n'étais pas présente et on ne peut pas juger de mon travail.
En fait, elles ont intégré ce nouvel esprit du salariat, cette idéologie, pour reprendre le mot que vous utilisez, Sophie Bernard, une idéologie dont on va trouver des traces aussi, par exemple, dans les rêves de ces salariés, des rêves sur lesquels, les rêves qu'a écouté et qu'a filmé Sophie Bruno, qui nous rejoint dans la seconde partie de l'émission, après un extrait du nouvel album de l'ancien leader de Pavement, Stephen Malkmus.
I would like to represent you, be a verbal musician. Be the one who defends you when the odds are stacked up high like rotten dominoes. I'll be there to vent the jury, make sure there's a couple of softies on our side. They'll see their own kids in you, their empathy will go 1,000 miles wide. Your motive, it's unclear, the witness is a nearsighted engineer. It's the greatest on in legal history.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Le nouvel esprit du salariat, c'est le titre du livre de Sophie Bernard dont nous parlons aujourd'hui. À la suite dans les idées, on en parle aussi avec Sophie Bruno. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en plein tournage en fait d'un film dont je ne dirai rien, dans le sud de la France, c'est tout ce qu'on pourra dire peut-être. Mais vous êtes là avec nous pour continuer à parler du travail, à parler du salariat, parce qu'on vous doit un certain nombre de films qui traitent de cette question. J'en citerai que deux, Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et puis plus récemment, Rêver sous le capitalisme, un film dans lequel vous avez en quelque sorte filmer les rêves d'un certain nombre de travailleurs et travailleuses, Sophie Bruno.
Oui, Alors, effectivement, le premier film datait de 2005 et celui-ci est quasi 15 ans plus tard. Et la question du pourquoi, elle était évidente. Hein. Il y a une centralité du travail et une dégradation et des pratiques qui sont généralisées, qui créent des souffrances indues. Et la question de comment y revenir était une vraie question pour moi de cinéaste. Il ne s'agissait pas de faire « Ils ne mourraient pas tous », mais tous étaient frappés numéro 2. Mais j'ai longtemps cherché et j'ai eu un jour un livre en main qui s'intitule « Rêver sous le Troisième Reich » de Charlotte Bérat. Et ça a été vraiment un élément déclencheur. Donc je me suis dit, tiens, et si on ramenait cette approche qui avait eu l'idée lumineuse qu'on devait rêver différemment selon les régimes politiques, j'ai ramené ça aujourd'hui sous le capitalisme. Et ça m'a pris 3 ans pour finir par réduire la collecte à 12 rêves et à les mettre en récit. Et voilà, en gros.
Alors, les rêves, on le sait, sont un matériau assez peu utilisé par la sociologie. Enfin, jusqu'à Bernard Lahire récemment, qui en a fait le premier volume pour l'instant d'un gros travail. On comprend bien pourquoi quelqu'un qui, dans une perspective plus artistique, qui la vôtre, même si vous faites du cinéma documentaire, je ne sais pas si vous aussi vous reconnaissez dans ce mot artistique, j'imagine, Sophie Bruno. Les rêves, c'est la façon que vous avez trouvé pour parler du travail sans tomber dans la redite du premier film que vous citiez.
C'est aussi une vraie question hein, de filmer les rêves pour un documentariste.
C'est un défi. Oui.
En même temps, ça m'amusait beaucoup parce que il n'y a pas plus fiction que finalement de filmer les rêves. C'est-à-dire qu'on a affaire complètement hors champ. Hein. Le rêve est toujours de l'ordre du souvenir. Il nous échappe par essence. Et en même temps, peut-être qu'il s'associe bien à ce hors champ qui est le monde du travail qu'on peut pas filmer directement frontalement. Donc, il s'agit de toujours révéler du sens et de faire voir. Hein. C'est un peu notre pratique. Et effectivement, ben, le rêve, comment on le filme? On le filme sans doute par la mise en scène de la parole, donc par les récits. Et là, ben, c'est ce qui s'est passé principalement, mais pas que, parce que j'ai été amenée à séparer le son de l'image, donc j'ai dû aussi inventer des images qui n'existaient pas, et j'ai associé au récit sonore des images avec des dimensions oniriques. Donc j'ai filmé beaucoup les espaces de travail, essentiellement à Bruxelles, en cherchant le rêve dans la réalité, parce que je pense qu'effectivement, conscient et inconscient, réalité et rêve sont associés, sont des dialectiques qu'on retrouve à l'intérieur d'une même image. Donc je me suis fort inspirée de Bachelard pour comprendre ma propre écriture, puisque je crois que chaque film est un processus de recherche pour être en adéquation entre les logiques d'écriture et ce qu'on essaye de raconter. Et là, effectivement, je me suis rendu compte que bah, que ce soit le rapport à la lumière, le rapport à l'eau, le rapport à l'air, ensuite tout ce qui était de l'ordre du visible et du caché, des entrées, des sorties, des apparitions, disparitions, du reflet, évidemment, qui est un monde en soi, hein. Il y a tellement de nuances dès qu'on le travaille. Je me suis immergée dans cette dimension onirique à partir du monde réel pour rejoindre finalement cette espèce de poétique du rêve politique, hein, puisque je me suis intéressée essentiellement à ce qu'on appelle les rêves manifestes, hein, où on fait clairement le lien entre le rêve et le contexte qui l'a engendré. Donc le contenu est complètement, inspiré, ancré dans le réel que le travailleur connaît le jour. Et cette vision nocturne, là où elle est différente par rapport au premier film, c'est qu'elle permet par un effet d'exagération, d'amplification, puisque effectivement le rêve est une image parlante, une métaphore vive, et permet, comme dans un effet de loupe, de déformer le réel de façon telle que il nous permet de le reconsidérer, de le revoir. Il nous interpelle, il nous étonne, et donc il agite à nouveau notre capacité à penser, que souvent le monde du travail éteint, parce que il y a cette fameuse menace à la précarisation, il y a la peur qui est devenue quasi un outil managérial, et il y a aussi cette intensification qui fait qu'on est la tête dans le guidon et on ne pense plus, on ne réfléchit plus. Donc ces rêveurs, souvent en congé maladie d'ailleurs, ont repris distance avec le monde du travail, mais surtout ils se sont mis à écouter leurs rêves qui parfois est de l'ordre du déclic et qui peut, je pense, sauver des vies ou en tout cas permettre à certaines personnes de dire qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles n'ont plus envie de participer à ce que parfois elles réprouvent moralement.
Sophie Bernard, quand on entend Sophie Bruno à l'instant parler de son travail sur les rêves, on en vient à se dire au fond ces rêves réels en quelque sorte qu'elle a filmés viennent entamer ou même briser le grand rêve que vous décriviez tout à l'heure, par exemple dans la grande distribution, celui d'une entreprise dans laquelle n'importe quel salarié deviendrait propriétaire de l'entreprise. C'est à l'origine de cette déception dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, puis il me semble que ça permet aussi de mettre en évidence les la forte pression aussi au travail qui est subie par l'ensemble des salariés. C'est que ce que moi j'observe dans le monde du travail et qui va certainement se manifester au travers de ces rêves et qui peut être un moyen justement d'y accéder également, c'est que donc sous couvert d'accorder plus d'autonomie aux salariés, en fait, on a des stratégies patronales ici qui visent à euphémiser le lien de subordination pour obtenir cet engagement total au travail qui favorise certainement le passage d'une forme de contrôle exercé de l'extérieur à une forme d'autocontrôle, d'exploitation à une forme d'auto-exploitation, et qui se solde donc par une intensification du travail dont on connaît justement la croissance ces dernières années et qui se traduit pour les salariés par une forte pression au travail. Donc en effet, j'imagine que les rêves peuvent à la fois être un indicateur pour accéder à ces questions vécues au quotidien, et en même temps aussi un exutoire pour évacuer cette tension.
Sophie Bruno.
Oui, mais ça se relie, ça s'articule finalement à la grande question de comment ma subjectivité est travaillée par le capitalisme. Mmh. Et on le voit à travers les rêves, c'est qu'il n'y a plus de rupture entre vie professionnelle et vie privée. C'est-à-dire que on décloisonne les espaces. Et j'ai même rencontré un syndicaliste qui regrettait la pointeuse, en fait, parce qu'il y avait une rupture temporelle et spatiale, tandis qu'aujourd'hui, les gens ressortent, ils continuent à travailler avec leur ordinateur, avec leur téléphone, et jusque sous la couette, en fait. Donc, il y a comme ça un travail continu, jusqu'au point qu'il y a un rêveur, qu'il rêve, qu'il dort. C'est une espèce de mise en abîme, et quand il se réveille, il se rend compte qu'il n'est pas dans son lit, mais il est dans un dortoir, et que ce dortoir se trouve dans son entreprise, comme ça il peut tout de suite aller travailler. Donc ça montre effectivement que cette absence de rupture fait qu'il y a un don de soi à l'entreprise et que les gens se mettent à travailler dans tous les espaces et dans tous les temps. Et ils n'arrêtent plus, ce qui fait que on se retrouve avec des gens qui, quand ils sont très engagés, parce que c'est les plus investis qui tombent les plus malades, en viennent à effectivement des épuisements professionnels du fait de ne plus être en arrêt et d'être dans un espace continu de travail.
Sophie Bernard.
Oui, ce qui va en effet en rajouter, je pense, pour compléter, c'est que de fait cet engagement est total et on exige en fait cet engagement total au travail, qui de fait, en effet, les enquêtes moi que je mène, je vois également cette absence de coupure travail hors travail, qui vont de pair aussi avec cette remontée de l'incertitude qui s'opère au cœur du salariat stable. Moi, je le saisis de fait avec les rémunérations variables. C'est l'idée avec cette injonction de faire son salaire. Finalement, on en devient responsable et on craint sans arrêt en fait une chute de ses rémunérations et donc ça occupe son esprit en permanence. Et c'est finalement ce qui on rejoint un peu cette idée, cette transformation du salariat où finalement la dimension statutaire du salariat tend à être vidée de sa substance au profit d'une dimension marchande et contractuelle où on fait son salaire, on travaille quasiment à son propre compte tout en étant salarié, ce qui induit cette absence de rupture et rend difficile aussi tout ce qui est action collective, parce qu'on le voit bien là, les gens craquent, mais individuellement, psychologiquement.
Sophie Bruno, vous parliez de Bachelard tout à l'heure et de la manière dont cette philosophie avait alimenté votre forme filmique pour ce travail, mais je sais aussi que vous êtes proche des sciences sociales, que vous avez été formé par là. Vous alimentez vos films par ces publications, par ces recherches, comme celle de Sophie Bernard dont nous parlions aujourd'hui.
Ben, je pense effectivement que l'anthropologie a été ma première formation du regard. Hein. C'est aussi comprendre qu'il n'y a de sens que du caché, et donc il s'agit de, à travers le terrain, à travers les faits, à travers des approches qualitatives hein, qui fonctionnent dans l'immersion, dans la durée, dans aussi, c'est-à-dire, je cherche pas à être représentative, mais bizarrement, je dois évacuer cette notion de représentativité pour atteindre d'autres dimensions. Donc, effectivement, dans le film, il y a par exemple des hommes et des femmes, du privé, du public, des cadres supérieurs et des employés, ce qui me permet de tisser, à partir de ce qu'il y a de plus singulier, de ce qu'il y a de plus intime et secret concernant les rêves, du général. Et c'est-à-dire que je vais travailler également les récurrences dont on parlait tout à l'heure. Et l'un va parler plus d'identification, l'autre va parler de la peur dans les rapports sociaux au travail, l'autre va parler des évaluations individualisées des performances. Chez tous, on va voir, parce que c'est devenu une unité architecturale standard, le rapport au contrôle, hein, dont on parlait également, et l'open space l'a très bien favorisé. Non seulement il y a un contrôle via l'outil informatique, mais par un manager qu'on ne voit pas et qui est devenu une espèce de deuil invisible, mais aussi comment on amène les gens à se contrôler les uns les autres, en fait. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, parce que cette mise en concurrence, ce contrôle à 360 degrés, comme on disait, sépare les gens des uns avec les autres, et ces processus d'individualisation, ils créent beaucoup de souffrance, en fait, parce que seul, on s'en sort moins bien que quand on est ensemble. Et on se retrouve aujourd'hui, notamment avec des actes ultimes qu'on n'avait jamais vus à la plus grande époque de l'ère industrielle, où les conditions de travail étaient peut-être pénibles, mais aujourd'hui, les organisations de travail, ce qui est différent, créent ces souffrances indues qui amènent parfois jusqu'au suicide.
Sophie Bruno, peut-être vous pouvez nous dire où on peut aujourd'hui voir votre film qui était sorti en salle. Il est disponible sur des plateformes, en DVD.
Oui, il est disponible sur une plateforme qui s'appelle le film documentaire. Il est disponible aussi en DVD. Il y a une diffusion bientôt sur les RTBF en Belgique. Et voilà, sinon il circule en salle. Il y a régulièrement des projections ponctuelles avec à chaque fois des débats, parce que effectivement, je pense que autant le rêve, et c'est pour ça aussi que je suis allée vers lui, est un matériau de résistance. Il nous permet effectivement de se re-questionner et de voir ce qu'on ne voulait plus voir, hein, de retrouver une capacité de penser qui est déjà une action politique, mais la salle de cinéma fonctionne pareil.
C'est bien aussi, oui.
Déjà un collectif.
Ouais. Merci beaucoup, Sophie Bruno. De toute façon, on trouve les références de la plateforme DVD dont vous avez parlé sur la page de La Suite dans les idées sur le site de France Culture, où on trouvera également, bien entendu, la référence du livre de Sophie Bernard, Le Nouvel Esprit du Salariat, qui paraît au PUF. Voilà, merci à toutes les deux. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier. À la technique Bernard Laniel, à la réalisation Marie Placé. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.